VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 octobre 2021. Jean-Roger Dion à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Mali, le gouvernement dément avoir mandaté un ministère pour négocier avec les djihadistes. 11 suspects ont été arrêtés au Niger en rapport avec le meurtre des humanitaires français de l'ONG Acted. En Somalie, après des semaines de tensions, le président et le premier ministre conviennent d'accélérer le processus électoral. Les adieux d'Angela Merkel à l'Union européenne, les dirigeants ont multiplié les hommages à celle qui a dirigé l'Allemagne depuis 2005. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le gouvernement malien dément avoir mandaté qui que ce soit pour négocier avec certains djihadistes après une annonce dans ce sens par l'un de ses ministères. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le gouvernement déclare qu'à ce jour, aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée officiellement pour mener une telle activité. Le texte ajoute, lorsque le gouvernement de la République du Mali jugera opportun d'ouvrir des négociations avec des groupes armés de quelque nature que ce soit, le peuple malien sera informé par les canaux appropriés. Le communiqué affirme avoir appris par voie de presse que l'État aurait ouvert des négociations avec des chefs djihadistes. Le ministère des Affaires religieuses a diffusé la semaine passée un communiqué citant le ministre Mahamadou Kone, affirmant que ses services ont été chargés d'une mission de bons offices en direction des groupes armés radicaux. Le ministre a chargé le Haut Conseil islamique du Mali de la mise en œuvre sur le terrain.
Au Niger, 11 suspects ont été arrêtés ces derniers mois dans l'enquête sur l'assassinat de 6 humanitaires français de l'ONG Acted, leur guide et leur chauffeur nigérien en août 2020. Les détails avec Claire Morin-Jibou.
Logisticien, guetteur, donneur d'ordre, intermédiaire, 11 personnes soupçonnées d'avoir participé à ces meurtres ont été arrêtées entre août 2020 et février 2021 au Niger. Ils ont été présentés à un juge qui a ordonné leur placement en détention. Parmi ces 11 suspects figure au moins un des guetteurs et un donneur d'ordre intermédiaire. Les autres appartiennent à 2 cellules logistiques démantelées à Niamey et dans un village proche de la réserve de Kouré où le véhicule de l'ONG avait été pris en chasse par 3 hommes armés à moto. Selon une source proche du dossier, les 3 assaillants ont été identifiés mais n'ont pas été retrouvés. Le chef du groupe État islamique au Sahel, Adnan Abou Walid al-Sarawi, avait personnellement ordonné cette attaque, avait annoncé la ministre française des armées, Florence Parly, révélant qu'il a été tué mi-août par la force Barkhane dans la région des Trois Frontières.
L'Assemblée nationale du Sénégal a mis en place ce vendredi une commission ad hoc qui va statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de 2 députés, membres du parti présidentiel. Ils sont soupçonnés d'avoir monnayé leur service pour permettre à des individus d'obtenir des passeports diplomatiques. Un commerçant présenté comme le cerveau présumé de ce réseau est en prison depuis le 13 septembre. Une ONG congolaise a réclamé vendredi la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour rendre justice aux personnes tuées durant la campagne du référendum de 2015 qui avait permis au président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en 2016. Ce qui s'est passé en 2015, ce sont des crimes extrêmement graves et il est incompréhensible que 6 ans après, justice ne soit pas rendue, a déclaré Trésor Nzila, le directeur exécutif du Centre d'action pour le développement. Cameroun, l'ONG internationale Human Rights Watch a qualifié aujourd'hui de simulacre de procès la condamnation à mort il y a un mois de 4 hommes pour le meurtre de 7 écoliers dans une région anglophone. L'Organisation des droits humains a dénoncé un simulacre de procès. Selon l'ONG, ce procès a été marqué par des vices de procédure, notamment le recours à un tribunal militaire pour juger des civils. Le 7 septembre, le tribunal militaire de Boya a condamné à la peine de mort avec fusillade sur la place publique 4 des 12 accusés de cette affaire. En Somalie, le président et le premier ministre ont appelé dans un communiqué commun à accélérer le processus électoral devant déboucher sur la désignation d'un nouveau chef de l'État, mettant fin au bras de fer qui les opposait depuis des mois. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, et son premier ministre Mohamed Hussein Robol, qui s'opposaient sur les nominations au sein de l'appareil sécuritaire, ont convenu d'accélérer le processus électoral. Ils ont appelé les États de la Fédération à commencer l'élection de la Chambre basse du Parlement dans les deux prochaines semaines. Les deux hommes avaient continué durant plusieurs semaines leur bras de fer. Le chef de l'État a annoncé le 16 septembre qu'il suspendait les pouvoirs exécutifs du Premier ministre, une décision rejetée par ce dernier. Jeudi, ils ont déclaré qu'ils vont cesser de s'opposer sur les nominations et qu'ils soutiendraient une enquête judiciaire sur la disparition d'une agente des services de renseignement, Ikran Talil, dont la famille accuse les services secrets somaliens de l'avoir assassinée.
L'armée éthiopienne a mené aujourd'hui une nouvelle frappe aérienne sur Mekele, la capitale de la région du Tigré, qui a fait 11 blessés et contraint un vol d'aide de l'ONU à rebrousser chemin, selon des sources humanitaires. Une porte-parole du gouvernement a affirmé que l'aviation éthiopienne a visé un centre d'entraînement des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. Cette quatrième journée d'opération sur la ville de Mekele coïncide avec une intensification des combats plus au sud, dans la région de l'Amara. Au Kenya, trois policiers ont été inculpés pour avoir aidé un tueur d'enfants qualifié de vampire à s'échapper la semaine dernière d'un commissariat de Nairobi, avant de se faire lyncher deux jours plus tard par des habitants de son village natal. Masten Milimo Wanjala avait été arrêté le 14 juillet après la disparition de deux enfants, mais au cours de son interrogatoire, il avait reconnu en avoir tué au moins une dizaine. La prochaine audience du procès des trois policiers a été fixée au 4 novembre. Les pluies diluviennes qui se sont abattues vendredi sur Abidjan, capitale économique ivoirienne, ont tué au moins 4 personnes et 2 enfants sont portés disparus après avoir été emportés par les eaux. Les victimes de ces intempéries sont essentiellement des habitants des zones pauvres en infrastructures et adossées à des collines devenant instables en cas de forte pluie. Un éléphant a piétiné à mort un braconnier présumé dans le parc national sud-africain Kruger. Le corps écrasé a été découvert jeudi lors d'une opération qui visait à empêcher le braconnage. Selon les premiers éléments de l'enquête, la personne décédée a été tuée par un éléphant et abandonnée par ses complices, a expliqué un porte-parole du célèbre parc.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants européens ont réservé ce vendredi une ovation debout à la chancelière allemande Angela Merkel à l'occasion d'un sommet à Bruxelles qui devrait être son 107e et le dernier après 16 ans au pouvoir. Nathalie Barge.
Vos adieux à la scène européenne nous touchent politiquement, mais nous remplissent aussi d'émotions, a déclaré Charles Michel, le président du Conseil, saluant la sagesse d'Angela Merkel qui manquera aux Européens, en particulier dans les périodes délicates. Les chefs d'État et de gouvernement ont loué l'esprit de compromis de la chancelière sur le départ, comme son homologue autrichien Alexander Schallenberg, qui l'a qualifié d'artisane de la paix au sein de l'Union européenne. Pour ce dernier sommet où la Pologne était sur la sellette pour ses violations de l'état de droit, Mme Merkel a encore imprimé sa marque en plaidant pour le dialogue avec Varsovie. Les responsables européens ont offert à la chancelière un cadeau représentant le bâtiment où se tiennent les sommets européens.
La Cour suprême des États-Unis a annoncé aujourd'hui qu'elle examinerait le 1er novembre la loi du Texas sur l'avortement, la Haute Cour refusant dans le même temps de suspendre l'application du texte. L'administration du président Joe Biden avait saisi lundi la plus haute juridiction américaine dans le but de bloquer cette loi qui bannit toute interruption volontaire de grossesse dès que les battements de cœur de l'embryon sont détectables, soit vers 6 semaines de grossesse, quand la plupart des femmes ignorent encore être enceintes. Le premier ministre israélien Naftali Bennett est en visite en Russie pour ses premiers pourparlers avec le président russe Vladimir Poutine, avec le programme nucléaire iranien au centre des discussions. Avant les pourparlers, M. Poutine a souligné que Moscou et Israël cultivaient des liens uniques, espérant la poursuite de la relation de confiance que le maître du Kremlin entretenait avec le précédent gouvernement israélien. La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a affirmé aujourd'hui avoir tué plus de 90 rebelles houthis dans de nouveaux raids au sud de la ville de Marib. 16 véhicules militaires ont été détruits et plus de 92 terroristes éliminés ces dernières 24 heures à Al-Jaouba, au sud de Marib, et à El-Kassara, au nord-ouest, a indiqué la coalition citée par l'agence officielle saoudienne SPA. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lydon.
La République du Congo espère mobiliser près de 1 094 milliards de francs CFA en 2022 sur les ventes de cargaisons pétrolières. C'est ce que souligne l'agence Ecofin qui cite le projet de loi de finances 2022 publié par le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. C'est environ 16% de plus que les prévisions ajustées de l'an 2021 qui se chiffraient à 904 milliards de francs CFA. Google a annoncé jeudi une baisse de ses commissions imposées aux éditeurs d'applications. Les développeurs d'applications sur abonnement ne paieront plus que 15% de leurs recettes à Google. Auparavant, ils devaient attendre la deuxième année pour descendre à 15% au lieu des 30% standards dans l'industrie. Google, qui domine l'Internet mobile avec son voisin Apple, fait face à une pression croissante de la part des autorités de régulation de la concurrence qui les accuse d'abus de position dominante sur leur place de marché. Les États-Unis ont annoncé jeudi l'abandon définitif des droits de douane à l'encontre de l'Autriche, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, qui avaient été annoncés en 2020 en représailles aux taxes nationales imposées aux géants du numérique américain. Selon le Trésor américain, l'abandon de ces représailles fait suite à l'accord trouvé récemment à l'OCDE pour réformer la fiscalité mondiale des multinationales. Cette réforme comprend d'une part une taxation des géants du numérique et, d'autre part, une fiscalité minimale mondiale pour éviter l'optimisation fiscale.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les matchs retour du deuxième tour des préliminaires des Coupes africaines se disputent ce week-end sur le continent. En Ligue des Champions, entre autres rencontres, après leur victoire 2-0 à l'aller face à LPRC Oilers, les Marocains du Raja de Casablanca reçoivent les Libériens. Les Congolais du tout-puissant Mazembe jouent les Sud-Africains d'Amazulu 0-0 au match aller. Le tenant du titre à l'aller reçoit l'US Gendarmerie Nationale du Niger 1-1 à l'aller. Karim Benzema devra attendre un mois pour savoir si le tribunal le juge coupable de complicité de tentative de chantage. Le procès de l'affaire de la sextape a pris fin aujourd'hui et le jugement a été mis en délibéré au 24 novembre. Le parquet a requis hier 10 mois de prison avec sursis contre Benzema, star du Real Madrid et ex-coéquipier en équipe de France de Mathieu Valbuena, victime présumée d'un chantage autour d'une vidéo intime. L'un des avocats de Benzema, Maître Antoine Veil, a critiqué une enquête à charge contre son client et demandé sa relaxe. Le président du Bayern Munich, Herbert Heiner, dit être opposé à l'organisation d'une Coupe du monde de football tous les deux ans, comme le propose la FIFA. Les joueurs, les entraîneurs, tous ceux qui exercent des responsabilités dans les clubs se plaignent des trop nombreux matchs. Et maintenant, le rythme des Coupes du monde devrait être augmenté. Cela n'a aucun sens, a affirmé le dirigeant du géant allemand. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé mercredi à trouver un consensus sur la question de l'organisation d'une Coupe du monde biennale et annoncé la convocation d'un sommet en décembre sur la question. Ici, en NBA, autoritaire en ouverture de la saison face à Brooklyn, les Bucks, champions en titre, se sont fait marcher dessus à Miami 137-95. Pendant que les Warriors d'un Stephen Curry épicé 45 points se sont arrachés pour battre les Clippers 115-113. À noter aussi la large victoire d'Atlanta sur Dallas 113-87. Michael Jordan, LeBron James, Karim Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain ou encore Bill Russell font partie de l'équipe du 75e anniversaire de la NBA portée à 76 légendes du basket en raison d'un vote à égalité. Cette sélection s'inscrit dans les diverses célébrations mises en place par la Ligue nord-américaine de basket à l'aube de sa 75e saison par rapport à la liste des 50 légendes dressées en 1996 pour le 50e anniversaire de la NBA. Ce sont essentiellement ajoutés des grands noms ayant marqué le basket ces 25 dernières années, comme Kobe Bryant, et des stars actuelles comme LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, trois des 11 joueurs encore en activité. 6 stars internationales figurent sur la liste, parmi elles le Nigérien Hakim Olakuwon et le Grec d'origine nigériane Gianni Antetokounmpo.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président américain Joe Biden a affirmé jeudi que les États-Unis étaient prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque par la Chine, qui considère l'île comme faisant partie de son territoire. Oui, nous avons un engagement en ce sens, a déclaré M. Biden lors d'un échange retransmis sur CNN avec des électeurs à Baltimore. Joe Biden a également évoqué de nombreux autres sujets de politique nationale, allant de la santé à l'économie. Quelle analyse peut-on faire de cette sortie du président américain? Pour en parler, John Lindon a joint ici dans la région de Washington, René Lake, journaliste et analyste politique.
Le président met le paquet, si vous me permettez cette expression un peu familière. Il était à Baltimore hier, il sera dans le New Jersey en début de semaine prochaine. Deux jours avant, il était dans sa ville natale de Swainson en Pennsylvanie. Et tout cela, c'est pour vendre aux Américains, au public américain, son double programme, j'ai envie de dire, d'infrastructure. Infrastructure matérielle et infrastructure sociale, infrastructure humaine, comme certains disent. Donc, je crois que là, il est véritablement en campagne pour pouvoir avoir ce plan d'infrastructure voté, en tout cas pour sûr, avant la fin de cette année.
Justement, sauf qu'au niveau du Sénat, ou tout au moins du Congrès, il a encore du mal à rassembler ses troupes. Est-ce qu'on est au bout du tunnel, selon vous?
Écoutez, je ne sais pas, parce que bon, vous m'auriez posé la même question hier, je vous aurais dit, arrivé, on est pratiquement à la ligne d'arrivée, mais j'avoue que quand on l'écoute hier et qu'on voit les problèmes qui restent encore à être réglés, il y en a cinq, hein. Il y a des accords sur la question du climat, la question des congés payés, la question de la couverture médicale pour les seniors, la question des prix des médicaments, et maintenant, celle qui m'a le point de désaccord qui m'a le plus surpris, c'est celui sur les taxes, les impôts, puisqu'il semblerait que la sénatrice Christine Sinema ne soit pas partante pour l'augmentation des impôts au niveau des entreprises, mais également sur les fortunes. Or ça, je pensais qu'il y avait beaucoup, il y avait plus ou moins un consensus. Apparemment, ce n'est pas le cas. Or, cela peut remettre tout en cause, puisque le principe de base des démocrates, c'est qu'ils voudraient que leur plan soit entièrement payé. Et s'il n'y a pas d'augmentation des taxes, la question de comment payer un plan de 2 trillions de dollars, ça ne va pas être une question facile à régler.
Au plan international, lors de sa sortie d'hier, il y a eu ses déclarations sur Taïwan. Joe Biden souligne que les États-Unis sont prêts à défendre militairement Taïwan en cas d'attaque par la Chine. Une confrontation armée est-elle possible sur cette question?
Écoutez, moi, personnellement, je n'y crois pas. Je crois que le message que Joe Biden a envoyé, c'était plutôt de dire à la Chine, vous bougez beaucoup, vous êtes assez agressif dans la région, mais franchement, nous tenons à ce que le statu quo soit maintenu. Donc, ne touchons à rien, restons sur le statu quo et tout ira bien. Continuons à nous battre au plan commercial sur ces questions-là, mais en tout cas, sur les questions militaires, restons dans le statu quo. Donc, je pense que c'était plus une réaffirmation de la politique américaine dans la région qu'une menace ou une annonce anticipée d'un possible conflit militaire. J'avoue que pour ma part, j'en doute fortement.
René Lec, journaliste et analyste politique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un haut responsable des Nations Unies pour l'Afrique centrale a visité le bassin du lac Tchad pour évaluer les besoins de la région. Des années d'attaques de Boko Haram ont laissé une grande partie des infrastructures en ruine. Les populations appellent à l'aide pour lutter contre la pauvreté. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Maroua dans la région camerounaise de l'extrême nord. Le récit est de Lionel Gaïma.
François Loussini-Fall, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale, affirme que les attaques du groupe Boko Haram ont diminué au cours des 5 derniers mois.
toucher la réalité, voir les conditions de sécurité dans la région, mobiliser la communauté internationale pour apporter le soutien nécessaire à la force multinationale et aux armées nationales pour vaincre tous ces mouvements extrémistes dans le bassin de la Tchad, mais aussi et surtout assurer le redressement économique. Nous allons visiter les camps de déplacés, les camps de réfugiés, pour voir exactement ce qui est en train d'être fait.
Ces quatre pays ainsi que le Bénin fournissent de troupes à la force conjointe multinationale. Le CENIFAL a fait savoir que le programme des Nations Unies pour le développement collecte de fonds pour construire des routes reliant le Cameroun, le Nigeria et le Tchad afin de faciliter la circulation des biens et des personnes. Il a ajouté que le PNUD aide également des villageois à planter des arbres. Aussi, selon lui, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés aide les personnes déplacées à retourner dans leur village, à se faire établir les documents perdus, comme les actes de naissance, et fournit des fonds aux femmes pour ouvrir des commerces. L'ONU rapporte que la majorité de 40 millions de personnes établies dans le bassin du lac Tchad vivent dans les mauvaises conditions, en partie à cause des attaques de Boko Haram. Bidjawa Bakari est le gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria et le Tchad. Pour lui, les populations civiles ont besoin d'aide et demandent aux autorités camerounaises et à l'ONU de les aider à créer des meilleures conditions de vie.
L'activité économique était au ralenti. Le corridor commercial complètement à l'arrêt. C'est pour cela que le chef d'État a décidé de la réorganisation de nos forces avec toute la logistique et l'organisation des comités de vigilance. 1810 milliards ont été mis à contribution pour l'accompagnement des populations, mais pour la reconstruction des structures de base qui ont été saccagées.
Le gouverneur a expliqué que bien qu'en dépit du calme apparent, les troupes camerounaises combattent toujours le terrorisme à la frontière avec le Nigeria et sont prêtes à protéger les civils en cas d'attaque à grande échelle par des groupes djihadistes. Le gouvernement camerounais dit avoir alloué 300 millions de dollars pour reconstruire les infrastructures détruites par Boko Haram. Il indique que dans certaines des zones relativement calmes, la construction d'écoles, des puits, de toilettes et des dizaines de marchés et d'hôpitaux a commencé. Des responsables camerounais, tchadiens, nigériens et nigérians se sont réunis à Yaoundé le 8 octobre et ont convenu de travailler ensemble pour reconstruire les zones détruites par Boko Haram. Ils ont assuré que le bassin du lac Tchad revient progressivement à la normale depuis que le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a été déclaré mort en mai dernier. Ils ont aussi reconnu que le chômage pourrait pousser certains jeunes à rejoindre les groupes djihadistes, notamment Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, qui continue de recruter dans la région.
Un groupe de femmes métisses enlevées dans leur enfance par des agents de l'État dans ce qui était alors le Congo belge poursuit la Belgique pour crimes contre l'humanité, comme le rapporte Henry Redguel. L'affaire survient alors que l'État belge lutte pour se réconcilier avec son passé colonial, parfois très brutal. Récit Claire Morin-Gibourg.
Léa Tavares Mujinga est née au Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo, d'un père belge blanc et d'une mère congolaise noire. Lorsqu'elle a eu 2 ans, et alors que son père était absent, les autorités coloniales belges l'ont arrachée de son foyer. L'année dernière, Madame Mujinga a décrit ce qui s'était passé.
Ils m'ont enlevée de chez ma mère, qui était avec moi à ce moment-là, de chez mes parents, pour aller me placer dans une institution religieuse. À Katende, mission catholique Katende, c'est les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Comme ils avaient enlevé d'autres enfants avant moi, et mon frère aîné aussi, était enlevé 1 an avant moi.
Les actions de l'État étaient motivées par la race.
Si un blanc ou une blanche épouse un noir ou une noire, c'est un péché. Donc l'enfant qui naît, est un enfant de la prostitution. Et c'est comme ça qu'on traitait les enfants du péché.
Madame Mujinga a témoigné qu'elle avait souffert de malnutrition et qu'elle emporte toujours les cicatrices physiques et mentales. Des milliers d'enfants ont été enlevés à leurs mères africaines par les autorités belges. Après l'indépendance du Congo en 1960, les avocats disent qu'ils ont été abandonnés. Madame Mujinga est l'une des 5 femmes, maintenant toutes septuagénaires, qui ont subi le même sort alors qu'elles étaient enfants. Elles poursuivent aujourd'hui le gouvernement belge. Elles demandent une indemnisation de 55 000 dollars chacune, un montant relativement faible, car si elles perdent, ces femmes devront payer un pourcentage de cette somme à l'État. Cette affaire a des implications beaucoup plus larges, estime leur avocat Michel Hirsch.
Métis était considéré comme une menace pour la colonie, une menace pour le système colonial et une menace aussi pour la suprématie de la race blanche. Et ce qu'a mis en place la Belgique, l'État belge, durant la colonisation, c'est un système pour éliminer les enfants.
Les avocats affirment que l'État belge voulait empêcher les unions interraciales et s'assurer que les enfants métis ne revendiqueraient pas un lien avec la Belgique plus tard dans leur vie. La Belgique s'est officiellement excusée en 2019 pour son rôle dans ces colonies africaines. Mais pour Michel Hirsch, cela ne va pas assez loin.
Le système a été mis en place par l'État belge, qui est un système qu'on peut qualifier de crime contre l'humanité, parce qu'il s'agit d'une attaque systématique contre une population civile, des enfants, parce qu'ils sont métis, c'est-à-dire pour des raisons raciales. L'État belge a reconnu les faits, mais n'a jamais indemnisé d'une quelconque manière. Et aujourd'hui et maintenant, devant le tribunal, l'État belge refuse d'indemniser, il refuse même de reconnaître les fautes qu'il a commises.
Le tribunal civil de Bruxelles devrait rendre un verdict dans les 6 semaines.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui a ouvert ses portes depuis samedi dernier, va refermer ses portes demain avec la consécration d'un réalisateur au Sacre Suprême, l'étalon d'or de Yenenga, qui récompense le meilleur réalisateur du continent. À quelques heures de cette grande fête du cinéma africain, les festivaliers vivent les derniers instants de l'événement. Des professionnels du 7e art ne s'aventurent pas dans les pronostics. Ils reconnaissent que la sélection cette année était de haut vol. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Près d'une semaine après son ouverture, le FESPACO a projeté plus de 230 films à ses jours et mobilisé des milliers de cinéphiles. Le plus grand festival de cinéma en Afrique vit ses dernières heures. Les professionnels du domaine apprécient les films sélectionnés cette année. Adama Ouedraoué est docteur en cinéma au Burkina.
Je vois que les tendances sont diverses, ce qui est encore aussi positif. Les thématiques, les abordages sont différents. Bon, et puis en même temps, on a pris en compte aussi l'animation. Vraiment, c'est un champ beaucoup ouvert cette année. J'ai regardé quelques longs métrages. Bon, c'est vrai, parce que je ne voudrais pas trop influencer le jury, mais il y a pas mal de films. J'ai vu un film, quelques films qui m'ont touché. Bon, beaucoup à la qualité de travail et la maîtrise technique.
Hassan Kone, lui, est journaliste malien.
J'ai vu des films très intéressants cette année au FESPACO. Bon, mais sauf que souvent, des films que nous autres nous trouvons très intéressants ne sont pas les films qui, au finish, ont l'étalon. Bon, mais cette année, je vais peut-être parler des coups de cœur. Hein. J'ai vraiment aimé le film d'Abaka Diallo et Les Trois Lascars. J'ai aussi aimé ce film ivoirien, La Nuit des Rois, qui se passe en milieu carcéral. J'ai aussi aimé ce film qui est là, Lingué, ce film du Tchadien, je l'ai aimé.
Les FESPACO, c'est aussi des rencontres utiles pour les professionnels. Noursa, directeur photo, est venu du Sénégal.
Et c'est toujours un plaisir, j'ai fait des rencontres intéressantes, voilà, des producteurs, des réalisateurs, des techniciens aussi, des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps, parce que voilà, chacun court dans son coin. Donc le FESPACO nous permet de nous regrouper, de nous voir, de manger ensemble, de discuter ensemble, de parler de l'avenir, de parler de projets, de parler d'art, de parler de cinéma, notre passion, voilà. Pour moi, c'est toujours bénéfique de venir au FESPACO parce que c'est toujours important d'échanger, c'est toujours important de voir ce qui se fait ailleurs et qu'on n'a pas accès, je le répète, on n'a pas accès réellement à ces films-là, donc le FESPACO nous permet de voir ces films-là.
Sur plus de 1000 films inscrits, 17 films sont en compétition pour le Sacre Suprême, l'étalon d'or de Yenenga, qui pour succéder à Joël Karekezi du Rwanda qui avait remporté l'étalon en 2019. On le saura demain samedi au Palais des Sports de Ouagadougou. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.